Bonjour Jean-Baptiste Lemoine.
Bonjour.
On va commencer par l'Europe, on va s'éviter la canicule. On en parle quand même énormément, un peu trop peut-être, non, d'un mot tout de même.
Non, mais c'est important d'en parler, oui. on se souvient.
On fait beaucoup quand même.
Oui, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir, ouais. Dit l'adage.
Alors, parlons de l'Europe, parce qu'Emmanuel Macron s'est employé à écarter le système des Spitzenkandidat pour la présidence de la Commission européenne, et il y est parvenu, on peut le dire. Est-ce que ce système n'est pas pourtant plus démocratique dans la mesure où il donne plus de poids aux parlementaires qui sont élus que les négociations de coulisses auxquelles on assiste en ce moment?
Peut-être pour nos auditeurs bien préciser ce que sont les Spitzenkandidat, c'est-à-dire ces chefs de file désignés par les partis européens.
Avant l'élection.
Voilà, mais ce que l'on constate, c'est que ces chefs de file, ils sont désignés en interne, par des machines partisanes et pas par les Européens eux-mêmes. La logique aurait voulu, pour que les Spitzenkandidat aient une réelle légitimité, en fait, que les Européens se prononcent sur des listes transnationales aux élections européennes, c'est-à-dire sur des listes qui soient les mêmes, de Brest à Parme, en passant par par Lübeck. Et donc, on voit bien que ce système, il a été rejeté par un certain nombre d'États et de partis.
La France en particulier.
Ah, Emmanuel Macron, le président de la République, lui plaidait pour des listes transnationales, ce qui permettait aux citoyens européens, ce qui permettait aux citoyens européens de véritablement faire un choix pour effectivement, des listes portant des candidats de toutes les nationalités, mais sur un même projet, un même cap, et ce n'a pas été le cas. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que les Spitzenkandidat n'étaient pas les mieux qualifiés pour réunir une double majorité, parce que vous savez qu'on a besoin de réunir une majorité. Oui. Au Conseil européen et également au Parlement européen. Et donc maintenant, en tous les cas, c'est le résultat du Conseil du 20 juin, c'est que il a été constaté que ces Spitzenkandidat ne pouvaient pas réunir une majorité. Et maintenant, Donald Tusk a une mission pour que, d'ici le 30 juin, les chefs d'État et de gouvernement puissent trouver, je dirais, l'équipe d'Europe avec les quatre principaux postes à pourvoir, avec un souci d'équilibre géographique et de parité.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les négociations qui ont lieu en ce moment, en coulisses, où chacun joue ou pour ou contre, en fonction de ses intérêts, la plupart du temps, pas forcément de l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est assez souvent le plus petit dénominateur, en fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça, c'est quand même pas très bon pour l'image de l'Europe?
Alors, très clairement, la France, elle ne fait pas le choix de défendre le candidat d'un pays ou d'un parti. Elle fait le choix.
Pour l'instant, elle a fait le choix de s'opposer à certains, mais pas encore d'en promouvoir un.
Mais encore une fois, le choix de trouver les personnes de talent, de compétences pour promouvoir un programme ambitieux pour l'Europe. L'Europe, elle est à la croisée des chemins, hein, on s'en souvient. Regardez, il y a le défi du Brexit, il y a le défi des tensions commerciales, et on a besoin de femmes et d'hommes qui vont porter une ambition européenne, qui vont affirmer cette puissance européenne, parce qu'on le voit, dans ce monde de crise, il y a besoin de mieux protéger peut-être nos citoyens européens, et puis également de préparer l'Europe de demain en termes d'innovation, en termes de climat, changement climatique, hein, c'est une ambition que le président porte fort, et petit à petit, nous arrivons à entraîner. Il y a parfois une force d'inertie, mais la France, elle est là pour entraîner au niveau européen.
Est-ce que vous diriez que Nathalie Loiseau a affaibli la France dans les institutions européennes avec ses propos assez peu aimables sur plusieurs de ses alliés européens? Elle est revenue elle-même, d'ailleurs, hier sur ce sujet en disant qu'elle avait fait une bêtise, en effet.
C'était pas les propos les plus adroits. Il n'en reste pas moins que la France, elle reste, je crois, d'autant plus en force qu'il y a un bataillon de députés européens issus de la Renaissance très important.
Oui, mais il n'y aura pas de présidence de groupe.
Mais il y aura sûrement des présidences de commission, des postes de porte-parole. Et ce qui compte dans la machinerie du Parlement européen, c'est pas tant d'avoir un poste majeur que de pouvoir influer avec des rapports, avec des postes à responsabilité pour les textes législatifs. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de textes législatifs qui attendent, qui sont importants.
Le sommet des deux rives à Marseille a eu lieu hier. Il était voulu par le président de la République. Il rassemblait 5 pays d'Afrique du Nord, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye, et 5 pays d'Europe occidentale, Portugal, Espagne, France, Italie et Malte. L'ambition affichée au moment où le président de la République avait annoncé ce projet, c'était de rassembler des chefs d'État pour discuter de grands projets communs. Or, hier, il n'y avait qu'un chef d'État, Emmanuel Macron lui-même. Est-ce que ça n'est pas finalement un échec, cette opération?
Alors en fait, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, il sera Il sera convié pour dans 6 mois, justement.
Oui, ben ça, là, c'est le nouveau choix... rendez-vous fixé, oui. Constatant un peu les défaillances de celui-là.
C'est un choix assumé, oui. Qui a été fait, là, de le tenir au niveau ministériel. On le sait, un certain nombre de pays de la Méditerranée occidentale connaissent des événements, ouais. Et par conséquent, il
était... Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage, du coup, de le reporter, tout simplement ?
Mais je crois que on est là dans un processus innovant. Ce sont le président de la République, en annonçant à Tunis ce sommet des deux rives en février 2018, a souhaité donner la main aux sociétés civiles. Et il y a là des centaines de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, d'universitaires, d'étudiants, de jeunes salariés qui ont travaillé, qui ont planché pendant des mois et des mois, au travers d'ateliers, qui ont initié des projet 260, et je crois qu'il était important de pouvoir leur apporter une première réponse, et face à l'appel des 100 qui a été lancé à Tunis au mois de juin, eh bien avoir une déclaration forte des gouvernements en disant on vous a entendu, on veut vous accompagner pour mettre en place des projets très concrets. Il s'agit par exemple eh bien d'un réseau des écoles de la mer, il s'agit d'un réseau des écoles de deuxième chance, et je peux vous dire que le président de la République, il souhaite justement que ce soit par des solidarités concrètes que la Méditerranée se relie à nouveau, et c'est comme ça d'ailleurs que la construction européenne a commencé, par des projets très concrets, et avec ça on va progresser.
Quelle est l'ambition du président de la République ? C'est de remplacer l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, qui est moribonde, qui vivote depuis des années ?
Je crois qu'on n'est pas dans le mécano institutionnel. Ce qui compte, c'est des projets du concret. Et ça veut dire que tous les acteurs qui peuvent aider à favoriser et à mettre en place ces projets, ça peut être l'UPM, ça peut être la Commission européenne, ça peut être naturellement des institutions comme la BERD, la Banque européenne d'investissement, etc., sont les bienvenus. Et donc là, on est là justement pour finalement agréger autour de ces projets portés par la société civile un certain nombre d'institutions qui peuvent aider, soit par les financements, soit par de l'ingénierie. Et je dois dire que Widiat Bouchamaoui, vous savez, prix Nobel de la paix tunisienne, Patricia Ricard, la chef de file française, ont fait un très gros travail pour justement aboutir à ces 260 projets, dont 60 qui sont prioritaires. Je crois que c'est ça qui est porteur d'espérance.
Je voudrais qu'on évoque, Jean-Baptiste Lemoine, la situation au Bénin. Il y a eu au moins 4 morts à l'issue des manifestations des 1er et 2 mai à Cotonou. Vous avez dit la semaine dernière que vous souhaitiez un geste d'apaisement du président béninois Patrice Talon à l'égard de son opposition. Est-ce que vous pouvez être plus explicite à quoi vous pensez quand vous dites geste d'apaisement ? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être l'organisation de nouvelles législatives d'ici à la fin de l'année ?
Alors j'étais interrogé à l'Assemblée nationale effectivement la semaine dernière sur la situation au Bénin, et j'en parle librement parce que j'étais le premier ministre français à me rendre au Bénin après l'avènement du président Talon, et nous avons travaillé sur un certain nombre de coopérations, je pense en matière culturelle notamment, en matière économique, mais c'est vrai que on a constaté que le scrutin du 28 avril dernier avait généré un certain nombre de tensions, et que il était important d'aller vers l'apaisement. Le président Talon avait lui-même le 20 mai tenu un discours à la nation, et ce qui nous semblait utile pour que le Bénin puisse aller de l'avant, c'est que ce dialogue national puisse se tenir effectivement dans les faits. Et ce que je constate, c'est que depuis la semaine dernière, il y a eu des événements nouveaux, c'est-à-dire que le président Yayi Boni, son prédécesseur, a pu quitter sa villa qui était encerclée. Donc naturellement, ça contribue, je pense, à faire évoluer le contexte, et il est important de continuer cette voie du dialogue.
Mais vous n'attendez pas un geste particulier ?
Vous savez, on n'est pas dans l'ingérence, on n'est pas dans l'indifférence non plus. Ce qui compte, c'est justement que les acteurs de la scène béninoise, on connaît le Bénin pour être Saint-Germain-des-Prés de l'Afrique. Et donc, le débat des idées, il est toujours vif, mais il doit se faire dans le respect de tout le monde.